Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h50 avec 20h55 avec une partie de l'équipe qui est ici à Paris, qui résiste. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Mohamed.
Pierre et Mohamed seront en direct avec nous depuis Cannes. Ce sera à 20h, un aperçu du programme.
Oui Mohamed, tout à l'heure on a rendez-vous avec Forest Whitaker, tout simplement, la palme d'honneur du 75e anniversaire. On va le voir parce que d'abord il a joué des caractères incroyables, des grands rôles, d'un grand jazzman à un grand dictateur, et puis parce que c'est une personne humaine, un human being, comme disent les Ricains, qui vaut vraiment le coup de rencontrer. À tout à l'heure.
Cannes, c'est la croisette, c'est la montée des marches, mais c'est aussi 2000 employés municipaux qui font tout pour que ce festival international du film se passe bien. Il y en a 2000, on a essayé d'en suivre certains qui s'occupent de la propreté, des espaces verts et de la police municipale. C'est maintenant.
C'est tout à l'heure, Mohamed, à partir de 20h. D'ici là, Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Ce mois de mai qui est bien parti pour devenir le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France.
On en parle avec l'hydrologue Emma Aziza et puis le journaliste météo de France Télévisions, Laurent Romeshko. Patrick, votre édito ce soir.
Le poids du passé dans la guerre d'Ukraine, le poids des massacres et des génocides de ces dernières décennies, depuis les années 30, à la fois à cause de l'Allemagne nazie et du régime soviétique.
On en parle avec Étienne de Poncin, ambassadeur de France en Ukraine depuis septembre 2019. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation avant votre retour dimanche à Kiev pour évoquer ce que vous avez vu de cette guerre en Ukraine et de l'action de votre ambassade. Mathieu,
moi je vais vous parler des élections législatives et de Jérôme Perra qui était candidat ce matin encore en se réveillant dans la 4e circonscription de Dordogne. Seulement voilà, c'est un homme qui a été condamné pour violence conjugale. On dit que c'est un proche du président de la République. Il a été poussé à retirer sa candidature, on l'a appris cet après-midi.
C'est dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Nos invités du dîner ce soir, Gad Elmaleh qui est en tournée partout en France avec son spectacle qu'il appelle son spectacle de la maturité d'ailleurs. Et Isabelle Carré qui sort son troisième roman, Le jeu des six. Nos invités du dîner, préparés ce soir par Julie Chay, chef bien connu du Benvenuto au
Bonsoir.
Oh mais ce sont des fraises que je vois là.
Tout à fait, ce soir on met à l'honneur les fraises du Périgord IGP dans une recette salée.
Voilà, c'est votre spécialité ça.
Tout à fait.
Du sucré, salé.
Du sucré, du salé, on se fait plaisir et on apprécie.
À tout à l'heure chère Julie, tout de suite c'est l'édito de Patrick Cohen. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est omniprésent dans ce conflit en Ukraine.
Oui, référence fréquente chez Zelensky, obsessionnelle chez Poutine, qui fait mine de croire que les nazis sont de retour en Europe de l'Est, en reprenant le vocabulaire de Staline d'il y a 80 ans. Ainsi, dans son discours du 9 mai sur la Place Rouge, le président russe n'a pas cité l'Ukraine, mais il a dénoncé les ennemis bandérites. Il parlait, mais qui a compris l'allusion, des partisans de Stepan Bandera, leader nationaliste ukrainien, allié des nazis en 1940, avant d'être désavoué et incarcéré à Berlin. Bandera finira assassiné par le KGB en 1959. Tout cela peut paraître lointain, ça n'a en réalité jamais été aussi proche. Et s'il y a un pays où l'on sait que l'histoire est tragique, c'est bien l'Ukraine, l'une de ces terres de sang racontées par l'historien américain Timothy Snyder dans ce livre magistral qui vient d'être réédité chez Gallimard. Ce que montre Snyder, c'est comment sur un même territoire qui va de la Pologne orientale à l'ouest de la Russie, avec au centre l'Ukraine, la Biélorussie et les Pays-Baltes, 14 millions de personnes ont été tuées par l'Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne entre 1933 et 1945. Chiffre effarant, 14 millions de morts en 12 ans.
Tués sur les champs de bataille ?
Pas du tout. On ne parle pas de morts à la guerre. Pas un seul soldat en armes dans ces 14 millions, mais des civils, femmes, enfants et personnes âgées pour la plupart, massacrés ou affamés. Plus de la moitié d'entre eux sont morts de faim. Suit d'abord la collectivisation forcée du blé ukrainien, ordre de Staline. Les les récoltes devaient être saisies et les paysans affamés empêchés de fuir vers les villes. Effroyable, cette famine organisée, Holodomor en ukrainien, extermination par la faim, a tué au moins 3 millions de personnes en 1933. Son souvenir est commémoré chaque année en Ukraine. En novembre 1937, la grande terreur stalinienne, 700 000 victimes. 1940, l'URSS et l'Allemagne occupent conjointement la Pologne, 200 000 Polonais exécutés. 1941, Hitler se retourne contre Staline, lance l'offensive sur le front de l'Est et fait prisonnier des centaines de milliers de soviétiques.
Toujours en Ukraine, des régiments entiers ont été faits prisonniers par l'armée allemande. Le nombre des prisonniers dépassait largement au 15 août le million d'hommes.
Et les femmes, ouais. On l'a vu, qu'a fait Hitler de tous ces prisonniers de guerre, dont beaucoup d'Ukrainiens? Il les a déportés et il les a laissés mourir de faim. Il les a affamés, 4 millions de morts. 1941 encore, avant même les camps d'extermination, les nazis mettent en œuvre ce qu'on a appelé la Shoah par balle, la traque de tous les juifs, jusque dans le moindre village ukrainien, et à Kiev, le terrible massacre de Babi Yar.
Le 29 septembre, 30 000 juifs sont dirigés vers une crevasse qui sépare deux quartiers de Kiev, appelée Babi Yar, le ravin des bonnes femmes. Avec leurs enfants par milliers, tous seront déshabillés et les vêtements revendus. Le lieutenant allemand Horst Pilz assiste au massacre des innocents. Il écrit : J'ai vu de quelle façon les petites têtes des enfants éclataient. Les juifs, qui devaient être exécutés après, étaient également obligés de voir ça. On entendait des gémissements terribles, des prières et des plaintes. Ce sont surtout les enfants qui criaient et pleuraient fort. Comment des hommes ont-ils pu faire cela ?
33 000 morts en deux jours, atrocité reproduite dans toutes les villes et les villages d'Ukraine. Le père Patrick Desbois a passé 20 ans de sa vie à chercher les témoins, les survivants, les fosses disséminées dans tout le pays et toutes les traces de ces millions de morts privés de sépulture. Il résume la méthode des commandos allemands, des commandos nazis, Einsatzgruppen, un juif, une balle.
Une balle est de dos, ce qui fait que beaucoup de gens ne sont que blessés. Et il y a des pousseurs, des nazis qui sont pousseurs avec des grands gants en cuir jusqu'aux épaules et qui poussent les gens dans la fosse, ce qui fait que la plupart des personnes en fait vivent, meurent d'asphyxie.
Tous les paysans,
oui, tous les paysans d'Ukraine, du sud au nord, de l'est en ouest, disent la fosse a mis trois jours pour mourir. Et toujours ils font ce geste avec les mains.
C'est ça, ouais.
J'ai mis longtemps pour comprendre qu'en fait les gens n'étaient que blessés. À l'est, ils jettent les juifs dans des puits. Une dame nous a dit le puits a crié pendant trois jours. C'est vraiment un massacre. Tous les bébés sont jetés vivants, toutes les personnes âgées sont jetées vivantes. Leur seule question des nazis, qu'il n'y ait pas d'évasion. Le reste, ils s'en fichaient totalement.
Pas d'évasion, pas de survivants, pas de traces. L'herbe repousse sur les fosses une fois comblée.
C'est une histoire largement méconnue ici.
Où le génocide juif est uniquement associé au camp de la mort, histoire restée enfouie pendant plus de 60 ans jusqu'à la chute du rideau de fer, la fin du régime soviétique et l'ouverture des archives de l'Est. Qui se souvient par exemple de la Roumanie du maréchal Antonescu, ce conducteur ainsi qu'il se faisait appeler, avait fait allégeance à Hitler. On le voit échanger avec lui des saluts nazis en 41 lors d'une visite à Munich. Führer qui en échange lui donna la Moldavie et la Transnistrie, cette région séparatiste aujourd'hui occupée par les Russes. Antonescu a fait déporter et mourir 400 000 juifs roumains en Transnistrie. Avec tout cela, vous comprenez les souvenirs ravivés par ces nouvelles fosses découvertes en Ukraine dans le sillage de l'armée russe. L'Ukraine est un pays qui depuis près d'un siècle marche sur ses cadavres. Et le père Patrick Desbois, qu'on a vu il y a un instant, est retourné ces dernières semaines en Ukraine pour documenter à nouveau les crimes de guerre et les massacres.
Étienne de Poncet, cette page de l'histoire ukrainienne, il est essentiel de la rappeler aujourd'hui.
Il est essentiel de la rappeler, elle est très présente. Terre de sang, je crois que le terme parle de lui-même. Multiplication au cours du XXe siècle des génocides, soit du totalitarisme hitlérien, soit du totalitarisme communiste stalinien, avec la famine qui est très présente dans les mémoires ukrainiennes, le génocide des Juifs aussi également. Il faut savoir que ces villes, moi j'ai beaucoup circulé en Ukraine, elles avaient un tiers, voire 50% de leur population qui était juive avant-guerre. Et s'agissant de Holodomor, de la grande famine, ça a touché toutes les familles ukrainiennes. Et on ne comprend pas la résistance ukrainienne actuelle à l'agression russe si on n'a pas cela en tête. Pour vous donner juste un exemple, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui est un ancien boxeur et qui est plutôt un beau bébé, si on peut dire, il m'a expliqué que de sa famille, sa grand-mère était issue d'une famille de 10 personnes et seule sa grand-mère avait survécu à la famine. Donc c'est pour vous montrer à quel point toute cette terre, que ce soit le génocide juif ou le génocide par la faim, a été marquée par ces abominations.
Il est d'autant plus insupportable d'entendre Vladimir Poutine parler de nécessité de dénazifier l'Ukraine.
Absolument, absolument, c'est une provocation sans fondement, surtout que les Ukrainiens commémorent ces pages douloureuses. J'étais à Babinyar pour le 80e anniversaire avec une très forte délégation, que le président Zelensky lui-même est issu de ce qui reste, une toute petite minorité de la minorité juive de Dnipro, de l'est de l'Ukraine, et qu'il y a chaque année une commémoration extrêmement émouvante en novembre, de Holodomor, au moment où l'hiver arrive sur le pays, où chaque Ukrainien allume une bougie devant cette statue d'une petite fille qui tient 5 épis dans la main, parce que 5 épis, c'était le seul nombre de blé que les Ukrainiens avaient le droit de conserver par devers eux. Et en plus, on sait tous que l'Ukraine, c'est le grenier à blé du monde. Donc une famine ait pu avoir lieu, soit provoquée dans ce pays-là, ça ajoute, je dirais, l'abject à l'abominable.
Même s'il est vrai que dans le passé, des figures du nationalisme ukrainien qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie, comme Bandera, ont été célébrés. Ça a créé des polémiques, ça a créé des tensions avec Moscou. C'était le cas du prédécesseur de Zelensky.
Absolument, mais bon, la responsabilité principale, et vous l'avez très bien rappelé, c'est l'Allemagne nazie. C'est pas les Ukrainiens qui, en plus, n'avaient pas d'État à l'époque. Hein, donc c'était la police ukrainienne qui pouvait peut-être collaborer. Mais,
Et l'Ukraine, pays à nouveau martyrisé avec des crimes et des massacres commis par les troupes russes, notamment à Boutcha, Borodianka et Irpin. Vous vous êtes rendu, vous êtes encore marqué par les témoignages que vous y avez recueillis?
Oui, parce que là, cette fois-ci, nous sommes au XXIe siècle, en 2022, et on retrouve des massacres, alors, qui sont peut-être différents, mais qui sont potentiellement des crimes de guerre, absolument, là aussi, inqualifiables. Avec, moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rencontré la population ou le maire, c'est qu'il y a eu deux types, visiblement, de massacres, soit des massacres organisés, c'est-à-dire que les gens venaient avec une liste, et si vous aviez un tatouage nationaliste qui pouvait être un simple drapeau, vous étiez immédiatement abattu, soit plutôt la soldatesque russe qui était laissée à elle-même, alcoolisée, et qui tuait les gens sans raison dans la rue. Donc oui, c'est des villes qui ont été martyrisées. Bon, là, on connaît celle du nord de Kiev, mais il y en a dans d'autres parties du pays. Et nous sommes, encore une fois, en 2022.
Aujourd'hui, à Kiev, s'est tenu le premier jour d'audience d'un procès pour crime de guerre. Un jeune soldat russe de 21 ans qui était jugé pour avoir abattu un civil à Boutcha. Dès l'ouverture du procès, il a plaidé coupable. Ce procès, c'est un exemple pour précipiter la 27e guerre, pour que l'humanité ne voit plus cette horreur de la guerre, a dit le représentant du parquet. Il est important de répondre aux armes par la justice, par l'exercice de la justice.
Absolument, et je crois qu'on peut rendre hommage à la procureure générale, Madame Benediktova, qui est une femme extrêmement courageuse et qui a lancé ces enquêtes. Il y en a plus de 10 000 qui ont été lancées. Et nous, Français, nous y contribuons indirectement, puisque comme vous le savez, nous avons une mission de légiste de la gendarmerie qui est sur place depuis déjà près d'un mois et qui va être relevée et qui fait un travail remarquable d'identification des victimes avec un laboratoire ADN. Nous avons été les premiers à apporter ce type d'aide. Le président de la République a décidé d'envoyer cette équipe de spécialistes et nous avons par là même montré notre volonté d'assister l'Ukraine dans cette tâche de justice qui va être très, très lourde à porter.
– C'est pas un peu rapide le procès en temps de guerre, avant même que la guerre soit arrivée ?–
Là je ne me prononce pas là-dessus, mais je pense que c'est… –
exceptionnel en tout cas.
– Oui, c'est exceptionnel.
– De juger… ces crimes de guerre, alors que la guerre est en cours. Vous étiez en train de parler des gendarmes français, ces experts français, c'est vous qui les avez reçus. On a une vidéo.
Aux côtés de la procureure générale d'Ukraine, des gendarmes français, 16 spécialistes en recherche criminelle sont arrivés à Boutcha.
Nous avons plusieurs types d'actions à conduire, d'une part sur place. Ensuite, nous avons des médecins légistes également dans l'équipe qui permettront d'examiner les corps pour déterminer les causes de la mort. Et puis enfin, nous avons une troisième équipe avec un laboratoire mobile d'ADN qui permet d'identifier les personnes par l'ADN.
Les preuves recueillies sur place seront ensuite remises à la justice internationale dans le cadre de l'enquête sur les crimes de guerre commis en Ukraine.
Alors vous avez accueilli une partie de ces gendarmes lorsque vous étiez à Lviv. Vous y disiez être fiers de leur travail. Ils ont permis d'identifier des corps, de nombreux corps ukrainiens, de leur donner une identité.
Oui, voilà, ils ont permis de leur donner une identité, plus de 150, si je ne me trompe pas, qui ont été identifiés grâce à eux. Et surtout, les Ukrainiens sont bien armés pour ce genre de situation, mais ils ont appris une technique plus rapide pour l'identification, puisqu'il y a un aspect de masse, vu l'ampleur des crimes. Et donc, on fournissait un laboratoire spécialisé qui permet d'aller plus vite. Et il y a des échanges de pratiques. Et d'ailleurs, les Ukrainiens souhaitent maintenant recevoir ce laboratoire. Et on va leur fournir dans le cadre de l'assistance. Dans quelques semaines, on leur donnera le laboratoire qu'on avait apporté pour l'instant, un peu à titre de démonstration.
Oui, ça fait partie de l'aide nécessaire donnée à ce pays. Il y a l'aide humanitaire aussi envoyée par la France, l'accueil de la sécurité civile, des pompiers, la livraison de médicaments, de matériel médical. Mais à chaque fois avec des demandes et des besoins qui sont très précis. Les ministres concernés font savoir, par exemple, qu'ils n'ont pas besoin de médicaments à tel moment, mais plutôt de matériel chirurgical. C'est ce que vous appelez la diplomatie du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Vous pouvez nous expliquer ?
Absolument. C'est le rôle de l'ambassade et de l'équipe que j'anime. C'est de recueillir très précisément les demandes ukrainiennes. Parce qu'il y a un élan de générosité incroyable en France et ailleurs en Europe. Donc beaucoup d'aide arrive à la frontière polonaise. Mais les Ukrainiens rencontrent un problème pour aller la chercher. Puisque les conducteurs, enfin très, très concrètement, les conducteurs de camions sont utilisés à d'autres tâches. Donc ils ne vont chercher l'aide que s'ils en ont réellement besoin. D'où la nécessité d'être à leur contact et d'avoir maintenu l'ambassade sur place, de façon à pouvoir lister avec eux des listes extrêmement précises. Par exemple, ils nous ont demandé des produits, des matériels chirurgicaux, du matériel de pompier, mais par exemple, dans le matériel de pompier, ils souhaitaient des échelles de plus de 40 mètres, parce que c'est là où vous avez un déficit. Donc nous recevons ces demandes, je rencontre les ministres et les responsables, nous envoyons à Paris. Après, c'est le travail du Quai d'Orsay, qui fait un travail remarquable, du centre de CRIB, de collectionner toutes les demandes, de préparer les convois que l'on voit à l'écran. Donc ça, c'est la constitution du convoi, et après, évidemment, nous le réceptionnons et nous le distribuons lorsqu'il arrive, c'est la diplomatie du dernier kilomètre. Et je dois dire qu'on a été quand même relativement efficace, même très efficace, puisque j'ai en mémoire un premier convoi, nous en sommes maintenant au troisième convoi de sécurité civile, mais le premier convoi, la demande précise des Ukrainiens nous a été adressée le 7 mars, et le 18 mars, donc vraiment trois semaines après, j'étais en mesure d'accueillir ce camion, ce convoi, de l'autre côté de la frontière, donc en Ukraine, à Tchernivtsi, qui est une ville du sud. Et je crois qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres partenaires occidentaux qui ont pu réagir aussi vite et aussi efficacement, et encore une fois, en répondant précisément aux demandes ukrainiennes.
Hier, Volodymyr Zelensky a fait une déclaration surprise qui n'était pas attendue lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et le président ukrainien, face à tout le gratin du 7e art, a convoqué des grandes figures du cinéma.
Avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Je vous remercie. Nous allons continuer à nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix que de se battre pour notre liberté. Je suis persuadée que le dictateur va perdre. Mais nous devons entendre les paroles prononcées en 1940, ces paroles qui ont été entendues sur les écrans du monde libre. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet.
Vous avez été nommé à Kiev 6 mois avant l'élection, après l'élection de Volodymyr Zelensky. Comme tous, vous avez été surpris par la dimension qu'il a pris.
Je connaissais déjà ses grandes qualités de communicant, puisqu'il vient de ce milieu-là. Mais il est clair que la crise, comme d'ailleurs beaucoup d'autres responsables ukrainiens, lui a donné une nouvelle dimension face à l'agression russe. En réalité, c'est le président Zelensky, mais il reflète son peuple. Moi, ce qui m'a marqué au cours de ces semaines, c'est toute la nation ukrainienne qui s'est levée pour résister à l'agression, qui était absolument inimaginable encore il y a quelques mois, ou en tout cas quand j'ai pris mes fonctions.
Et quelque chose qui nous frappe depuis Paris, enfin, pour un œil qui observe ce qui se passe en Ukraine, c'est la puissance, la force apparente de l'appareil d'État, aussi bien côté civil que côté militaire. On a l'impression d'un pays qui tourne avec une organisation civile et aussi une réactivité, une capacité militaire à la fois stratégique et opérationnelle très, très forte. Comment est-ce que vous voyez ça ?
Alors, absolument, l'appareil d'État a tenu, hein, y compris dans les premiers jours, quand c'était fragile, il s'est révélé efficace, l'armée a tenu, mais à côté de ça, ce qui est très étonnant aussi en étant sur place, et notamment parce que je me suis beaucoup déplacé en province, il y a la constitution en fait de forces territoriales qui s'agrègent à l'organisation de l'État et qui le complètent, et ça fonctionne bien, c'est-à-dire que c'est pas un système qui est pyramidal ou centralisé, il y a une armée effectivement qui combat, mais à côté, par exemple, quand je suis allé en province, dans des villes au-delà de Lviv, vous avez un chef-lieu qui prend en charge un régiment territorial qui se bat, par exemple, à Kiev. Et ça veut dire qu'il le fournit en vivres, hein, y compris quelquefois aussi en gilet pare-balles ou en casque, et il récupère les blessés. Donc il y a une sorte de parrainage, comme ça, entre une ville de l'Ouest et une ville et ce bataillon qui est sur la ligne de front. Et tout ça est remarquablement efficace. Il y a une sorte de décentralisation active, et c'est très, très impressionnant. Et surtout, derrière cela, il y a l'unanimité de la nation ukrainienne qui s'est levée en armes pour faire face à cette agression russe. Et ça, c'est très émouvant en même temps de voir tout un peuple. Et pour nous, Français, ça nous rappelle la Révolution française. Hein. C'est un petit peu la même chose. Moi, quand je circule en Ukraine, j'ai le sentiment que ce sont les soldats de l'an 2. Chacun s'arme, chacun cède et chacun lutte contre l'agresseur extérieur pour défendre la nation ukrainienne.
Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu hier également à nouveau avec Emmanuel Macron, 1h10 d'échange, l'occasion d'assurer de la part du président français l'intensification des livraisons d'armes dans les jours et les semaines qui viennent. Ces armes, elles sont cruciales pour l'Ukraine et c'est votre ambassade qui coordonne leur livraison.
Alors c'est pas ça, c'est lié, c'est entre les ministères de la défense, mais c'est vrai qu'on transmet là aussi les demandes ukrainiennes, mais là il y a un contact pour s'agissant des armes direct entre nos deux présidents. Comme vous le savez, ils étaient en contact avant la guerre, quasi deux fois par semaine au moins, et donc cette ligne est complètement établie.
Deux choses sont très attendues par les Ukrainiens, une éventuelle adhésion à l'Union européenne, qui sera étudiée au prochain Conseil européen en juin. Et puis, la venue d'Emmanuel Macron à Kiev, il est attendu.
Il est attendu. Vous savez qu'il est déjà venu. Il est venu le 8 février, donc juste avant, et qu'il était très engagé, y compris avant la guerre, depuis très longtemps sur la résolution, à l'époque c'était le conflit du Donbass. Et s'agissant de la candidature de l'Ukraine, oui, c'est maintenant une des priorités du président Zelensky. Bon, il y a tout un processus qui doit conduire au Conseil européen de la fin du mois de juin, qui examinera si le statut de candidat peut être accordé ou pas à l'Ukraine.
Vous savez si Emmanuel Macron va se rendre en Ukraine prochainement ?
Je n'ai pas la date, mais je pense qu'il prépare sa venue, oui, il souhaite venir, je pense.
Paris qui a fermement condamné aujourd'hui la décision de la Russie d'expulser 34 diplomates français, décision prise en représailles de l'expulsion de 41 diplomates russes début avril. Votre réaction à cette expulsion, la condamnation ?
Moi, je suis ambassadeur de France en Ukraine, hein, pas en Russie. Mais je crois que le Quai d'Orsay a condamné fermement, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
Oui. Et sur l'ampleur du geste, enfin, vous avez vu comme moi, et sans doute vous les avez partagés vous-même peut-être au Quai d'Orsay, des commentaires qui disaient Poutine a plutôt eu la main molle, et il n'a pas expulsé des diplomates essentiels, il a épargné il a maintenu les canaux de communication avec l'Occident, c'est ça qu'il a montré, non ?
Bon, je ne sais pas, je pense que c'est pour des grands spécialistes d'analyser, crois qu'il fait ça nom pour nom, si j'ai bien compris. Oui.
À peu près, 34 pour 41.
Et de la même façon, il manifeste sa réprobation à l'idée de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, mais sans en faire des menaces ou des choses plus agressives. Vous avez noté ça aussi.
Oui, ben l'interprétation, la pensée du président Poutine est compliquée. Hein. Elle n'est pas. Non.
Bon, d'accord.
Je la maîtrise mal.
D'accord, vous êtes plus zélinsophile que
Poutine. Zelensky est plus transparent, en tout cas. Plus transparent et j'ai une meilleure facilité à comprendre ce qu'il souhaite. Mais probablement parce que l'Ukraine, c'est une démocratie, donc c'est plus facile.
Vous serez de retour en Ukraine, à Kiev, dans 4 jours. La ville qui a été préservée. Mais là-bas, personne n'oublie les missiles qui sont tombés sur la capitale au soir du déclenchement du conflit, ce qui vous a poussé, d'ailleurs, vous et le personnel de l'ambassade, à quitter provisoirement Kiev pour n'y revenir que le 15 avril dernier, non sans émotion.
Depuis cet après-midi, le drapeau français flotte de nouveau à Kiev, devant l'ambassade de France. Une scène hautement symbolique.
Eh bien, ça veut dire que la France est de nouveau présente à Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Ça veut dire que Kiev n'a pas été conquise.
Plus de sécurité, mais le personnel et l'ambassadeur prennent leurs précautions. Par exemple, dormir dans son bureau.
Vous avez eu peur de ne jamais pouvoir retourner. Lorsque vous avez dû quitter l'ambassade, la crainte, c'était de ne jamais pouvoir y revenir.
Je suis un peu optimiste de nature, donc j'espérais bien revenir. Mais c'est vrai que quand on est parti, personne ne savait si on allait pouvoir revenir. Et notre retour, en fait, est consécutif au fait que les Ukrainiens ont repoussé l'attaque et l'assaut russe sur la capitale, puisque c'était bien l'objectif des Russes, c'était de prendre la ville. Il y a d'abord eu une phase d'attaque immédiate. On a cru qu'elle allait tomber dans les 2-3 jours. Puis après, il y a eu la volonté d'encercler Kiev. Et puis après, probablement, les Russes ont souhaité se reculer à 20 km et puis s'enterrer de façon à pouvoir continuer à envoyer de l'artillerie et à bombarder la ville. Et c'est là où les Ukrainiens ont réussi, par leur courage et par une victoire militaire, si on peut appeler ça comme ça, à les forcer à reculer de l'autre côté de la frontière biélorusse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a considéré que, puisque la ville n'était plus sous la menace directe de l'artillerie, qu'on pouvait revenir et que le président de la République a pris la décision de nous renvoyer à Kiev. Et moi, j'en étais très satisfait, puisque une ambassade, elle doit être près du pouvoir. Et le président Zelensky, comme vous le savez, n'a jamais quitté la capitale. Et donc, ça a été une grande satisfaction d'être à la fois parmi les derniers à partir et d'être parmi les premiers à revenir. C'est un signe politique fort. Et en diplomatie, les signes comptent.
Et qu'est-ce que vous dites justement aux Français attachés à Kiev, attachés à l'Ukraine qui y vivait et qui souhaiterait revenir? Alors,
le retour de l'ambassade est différent du retour des Français. Aujourd'hui, les conseils du Quai d'Orsay, la recommandation du Quai d'Orsay, c'est de ne pas revenir pour les Français. Le pays est en guerre, en zone de guerre. Une des caractéristiques actuelles, c'est qu'il peut y avoir des bombardements par missile, pas par artillerie, mais par missile sur la totalité du territoire. Il y en a à l'ouest, à l'est, etc. Donc aujourd'hui, nous déconseillons formellement à tous nos ressortissants de se rendre en Ukraine, quelle que soit la raison. Mais c'est une situation qu'on réévalue régulièrement. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques jours, on pourra considérer que dans telle ou telle partie, c'est possible de revenir.
Encore beaucoup de Français en
Ukraine ? Il n'y a plus beaucoup de Français, et là, on les avait tous ramenés. Il reste environ 200 Français, et il y en a qui reviennent aussi. Il y en a qui reviennent. Ce que nous émettons, c'est une recommandation. Après, notamment les journalistes ne les respectent pas.
Il y a beaucoup d'habitants de Kiev qui, eux, sont venus vivre dans leur capitale. Merci beaucoup, Étienne de Poncin, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
En France, c'est le plein été à la mi-mai. Les trois quarts du pays ont dépassé aujourd'hui les 30 degrés. 34,4 à Toulouse, 33,7 à Albi, 34 à Montélimar et 35 degrés au Cap-Ferré.
On transpire, on suffoque, comme en plein été.
Un thermomètre qui grimpe partout en France.
Jusqu'à 34 degrés à Montélimar, 33 à Toulouse et Bordeaux, 32 à Nîmes, 31 à Nantes.
Je subis, moi. Je supporte pas.
Cherchez l'ombre et profitez d'une journée estivale.
J'ai un très bel appartement, mais j'ai pas de balcon. Alors mon balcon, c'est ici, c'est la terrasse.
Bah moi, alors j'adore le soleil. Moi, plus il fait chaud, plus je suis heureux.
On a inventé un verbe, le verbe terrasser. Je terrasse tous les jours. Voilà, on vient au soleil, on se détend. C'est convivial, on entre amis. On est très heureux.
Une chaleur exceptionnelle par sa précocité, sa durée et son intensité.
Emma Aziza, hydrologue et chercheuse en adaptation et atténuation du changement climatique. Laurent Romeschko, journaliste météo, du lundi au vendredi, aux commandes à 12h55 sur France 3 de Météo à la carte, en compagnie de Marine Vigne. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. 34 degrés dans le couloir rhodanien, Montélimar, Orange, Avignon, un 18 mai. C'est inédit, c'est fou, c'est...
C'est super tôt dans la saison, on voit rarement ça. Enfin bon, ce sont des épisodes qui sont...
Là, vraiment un épisode de chaleur qui est vraiment très caractéristique par la précocité, par la durée, parce que ça fait un petit moment que ça se prolonge, par l'intensité, puis aussi par la zone géographique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de régions qui sont épargnées. Là, on parle du couloir rhodanien, on parle du Cap Ferret, d'Osgore, mais hier, à La Hague, sur le nord cotentin, on a atteint 26,6. Enfin bon, le record a été...
C'est une température qu'on n'avait pas vue depuis 100 ans.
Ah oui, dans bon nombre de régions, oui. Et puis sur la durée, ça fait l'agglomération lyonnaise, ça fait 6 jours, je crois bien, que la température est à plus de 30 degrés. On n'avait pas vu ça depuis 1945 sur un siècle de mesure, donc c'est considérable et anormal.
On entend beaucoup le terme de dôme de chaleur qui serait sur la France. Vous préférez le terme de couvercle. Pourquoi ?
Oui, c'est pas un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur, il faut véritablement qu'on ait un anticyclone et vraiment un circuit extrêmement fermé où ça soit extrêmement plaqué. Là, on n'est pas sur un dôme de chaleur. Le phénomène de couvercle, il n'est même pas tellement là. On a en météo, on appelle ça une dorsale anticyclonique. C'est vrai qu'on a ce champ de pression qui est très élevé, qui domine sur la France maintenant depuis plusieurs jours. Et les dépressions sont beaucoup plus à l'ouest, hein, c'est sur l'Irlande. Alors c'est vrai qu'on a un espèce d'aspirateur à air chaud, avec cet air chaud qui vient, on dit du Maghreb, mais même pas, ça vient de plus bas, parce qu'il y a une anomalie de température sur la zone intertropicale. Et donc c'est cet air chaud, qui est anormalement chaud aussi, et ça c'est certainement dû au dérèglement, qui remonte carrément sur la France, et ça se prolonge, il y a une situation de blocage de cette sorte.
Si certains se réjouissent d'être déjà en été, les terres, elles, souffrent beaucoup de ces chaleurs avec une sécheresse qui devient de plus en plus inquiétante.
28 degrés, un vent d'est très sec et pas une goutte de pluie depuis plus d'un mois. Les 70 vaches laitières de cette exploitation bio de Vendée font leur dernier tour de champ car ici l'herbe ne pousse plus du fait de la sécheresse.
Bah là, on a quelques autres prairies où il y a de l'herbe, mais là, d'ici la semaine prochaine, c'est clair qu'il va falloir qu'on commence à taper dans les stocks de l'hiver. Moi, j'ai choisi là de me séparer de 3 vaches pour baisser un petit peu mon cheptel, pour essayer d'avoir suffisamment à manger pour le reste du troupeau.
Emma Aziza, la France a connu des sécheresses chaque année depuis 2017, sauf l'année dernière. Mais là, la menace, elle vient surtout de ce qui s'est passé cet hiver.
Effectivement, parce que le cycle de l'eau est thermosensible. Donc quand on parle de ces vagues de chaleur, quand on parle de ces températures qui s'accélèrent, qu'est-ce qu'on fait ? On accélère le cycle de l'eau, on accélère l'évaporation. Donc on a d'abord eu une sécheresse au niveau atmosphérique. Cette sécheresse est en train de s'amorcer au niveau des sols. Et puis la sécheresse qui arrivera derrière, c'est la sécheresse des nappes, c'est la sécheresse de nos ressources en eau en réalité. Et donc, quand on regarde un petit peu la manière dont ça se déroule, effectivement, chaque année, on a eu des années historiques, mais la plupart du temps, l'hiver, on sortait de cet hiver excédentaire en eau. Donc, ce sont vraiment les canicules et les sécheresses qui nous ont fait plonger dans des formes de sécheresse éclair. Là, on a démarré une sorte de non-hiver, c'est-à-dire que dans la période de recharge où les pluies sont réellement efficaces, il n'y a quasiment pas eu de pluie. Et donc, en fait, on démarre sans rien. Et on a ces vagues de chaleur, et on a potentiellement de futures canicules, parce que ces masses d'air froid, à un moment donné, se confrontent à des masses d'air toujours plus chaudes, qui essayent de se localiser. Là, elles sont sur la France. Et quand on dit que l'année dernière, il a plu sur quasiment toute la France, mais en réalité, il y a quelques départements qui n'ont pas été touchés par ces gouttes froides successives qui se sont alternées et qui ont été responsables des inondations de l'Allemagne et de la Belgique. Ce sont des zones dans lesquelles on a eu, dans le Var, des feux incontrôlables. On a eu des villages qui étaient alimentés en camions-citernes. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière le manque d'eau, c'est que derrière, c'est tous nos modes de vie qui se cachent.
Ça veut dire, par exemple, qu'il va falloir choisir un jour à qui on donne prioritairement de l'eau. C'est le cas notamment au Chili.
C'est le cas au Chili.
En Californie, on dit voilà, on va d'abord donner de l'eau aux agriculteurs plutôt qu'aux particuliers.
Alors, la politique en France, elle est plutôt d'abord de dire on va limiter d'abord les agriculteurs, les industries, on va maintenir tout ce qui est sensible pour la population, notamment la sécurité civile, tout ce qui va permettre finalement ce soutien à un système sociétal. Mais par contre, on va protéger l'adduction en eau potable. On voit que dans d'autres pays, on va d'abord privilégier le fait de couper l'eau pour les habitants et on va conserver de manière massive l'agriculture. C'est deux politiques, deux logiques. Et donc, nous, déjà, on a quand même au moins cette protection qui fait que l'eau, d'abord, on la privilégie pour notre robinet.
Mais il y a déjà des problèmes d'eau potable dans certains départements ?
Alors là, ça s'amorce. Je pense que, vu la situation, d'ici un mois, les choses vont être beaucoup plus claires. Mais ça peut arriver très vite. Et là, la littérature scientifique mondiale est en train de nous montrer des choses nouvelles que, moi, j'observais en France. C'est-à-dire qu'on a ces sécheresses éclairs en l'espace de quelques jours, alors que normalement, une sécheresse, ça prend plusieurs mois. Et on a un mode de propagation de la sécheresse qui ressemble au feu de forêt. C'est-à-dire que l'air extrêmement sec se propage de part en part et, en réalité, vient assécher complètement les terres avec ce mode de propagation d'un feu. Et donc, du coup, on se retrouve avec un territoire qui était encore dans un bon état acceptable. Et 15 jours après, on est dans une situation dramatique. Et en matière de gestion de crise, il faut gérer comme aux échecs, quoi, avec deux coups d'avant. Et là, il faut regarder maintenant, parce que c'est encore maintenant qu'on peut agir.
Mmh. Ces orages, il y a des orages qui sont annoncés ces prochaines heures, oui, qui ne changeront pas grand-chose.
Non, ça ne va pas changer grand-chose, parce que le principe de l'orage, c'est que ce sont des pluies qui sont subites, qui tombent, alors parfois en quantité assez importante, mais sur des laps de temps qui sont assez courts. Et généralement, bah, ça n'a pas le temps de s'infiltrer. Ce sont des pluies qui ruissellent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes au mois de mai. C'est-à-dire que, d'une, il y a la température qui est bien montée, et puis on a toute la végétation qui est là. Les arbres, les plantes ont besoin d'eau, ce qui fait que cette eau ne va pas en profondeur dans le sol. Ce sont c'est la verdure qui boit cette eau. On n'a eu aucune recharge. Je reviens sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la période de recharge qui va de septembre à avril à peu près, elle n'a duré que deux mois. Il y a eu novembre et décembre, il y a eu quelques pluies en décembre. Et puis, à partir du mois de janvier, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de vidange.
La vidange a commencé.
Avec des nappes phréatiques qui ont commencé à baisser. Donc là, c'est dramatique. On ne va jamais pouvoir reconstituer ces nappes phréatiques.
Et jamais.
Puis, il y a jamais. En tout cas, là, pour la saison qui vient.
Ouais,
voilà, même s'il y a quelques orages, il ne faut pas compter dessus.
Vous alertez sur la situation des terres, mais aussi sur celle des bâtiments, Emma Aziza. Y a des conséquences de la sécheresse sur les bâtiments?
Bien sûr, puisqu'on a ce que l'on appelle des retraits gonflements d'argile. Un cinquième de la France est couvert par ce risque-là, qui existe très clairement, et surtout qui est assez pernicieux comme risque. Parce que d'abord, il va y avoir une rétractation du sol, et ensuite, dès qu'on va avoir une pluie qui va venir, eh bien, ça peut être trois mois après, on va avoir des phénomènes de fissures et des atteintes très importantes dans les bâtiments. Aujourd'hui, la sécheresse coûte plus cher aux assureurs que l'inondation. Donc, je crois qu'on doit se poser des questions parce qu'il y a une atteinte économique, il y a une atteinte environnementale, on en a parlé, le milieu naturel, on a tendance à l'oublier, mais c'est celui qui paye le plus cher le fait d'avoir des rivières à sec. C'est-à-dire que c'est toute la chaîne trophique et derrière toute la biodiversité locale qui dépérit. Et puis, on se retrouve aussi avec un problème sur le plan sociétal, c'est-à-dire que ne plus avoir d'eau potable, moi j'ai visité des villages qui étaient alimentés 2 heures par jour, ben, ça veut dire qu'on réfléchit tout, parce qu'on a besoin d'eau pour tout, on a besoin d'eau pour se laver, on a besoin d'eau pour se nourrir, on a besoin d'eau, la coiffeuse d'à côté a besoin d'eau, en fait on a tous besoin d'eau. Et il y a l'eau qu'on a ici et il y a l'eau qu'il y a ailleurs. Et le problème, c'est qu'il manque de l'eau partout ailleurs, parce que la sécheresse qu'on vit, nous, elle est vécue à peu près sur tous les continents. Donc derrière se cache le problème agricole et derrière l'effondrement agricole. Et c'est là qu'il faut peut-être se poser la question de notre résilience alimentaire et de ce qu'on devrait produire aujourd'hui en France.
Laurent parlait il y a un instant des pluies diluviennes qui ruisselaient, souvent s'évacuaient, allaient assez vite vers la mer, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de développer un système de collecte de l'eau de pluie comme ça se fait dans d'autres pays? On cite souvent l'exemple de l'Espagne où il y a à peu près 20% de l'eau de pluie qui est collectée.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un peu ce grand cycle de l'eau. On l'a regardé de très loin, on a regardé des projections climatiques, en regardant principalement le CO2. On a oublié que ce qui nous atteint en priorité, nous, c'est les sécheresses et les inondations. Et donc, ce cycle de l'eau est en train de s'accélérer. Ça va deux fois plus vite à évaporer et ça précipite deux fois plus rapidement. Quand ça précipite dans une ville, on va avoir des effets de ruissellement massif qui emmènent tous les polluants sur leur passage et ça finit dans nos rivières. Donc on a des rivières dans des états dramatiques, non seulement à cause de ces pollutions, mais à cause de tous nos modes de vie qui finissent aussi dans nos rivières. Quand on pense que derrière, on a en France 40% de nos nappes phréatiques qui sont censées être protégées, qui sont dans un état médiocre, on doit se poser la question de ce qu'on a raté et on doit essayer de comprendre ce qu'il va falloir essayer de récupérer, parce que dans une phase aussi critique qu'actuellement, en réalité, on a très peu de temps pour agir. Si on veut faire pousser un arbre, si on commence maintenant, dans 3 ans, il fait 1,50 m. Donc, on a intérêt de commencer tout de suite.
On a entre 3 et 5 ans, là, encore, pour agir, quoi. C'est ce que vous dites.
Ben, il faut commencer tout de suite.
Mais les chiffres...
Et qu'on commencera à avoir des résultats d'ici 3 à 5 ans.
Laurent,
dans les années 60, il y avait chaque année 5% du territoire qui était concerné par la sécheresse. Aujourd'hui, on est passé à 10%. Passer de 5 à 10, c'est considérable.
Même plus, on a eu 90% de départements en 2019 qui étaient dans un état critique. Derrière, c'est toute la France qui est concernée.
Mais alors les barrages pour retenir l'eau, vous êtes pour ce système-là ou...
Alors, quand on entend barrage, on entend deux choses. Soit on peut retenir l'eau quand vous avez en fait une topographie qui permet à un moment donné de mettre une sorte de petit barrage, ça s'appelle une retenue collinaire. Ça peut permettre de soutenir une petite agriculture dessous, ou bien ça soutient d'ailleurs tout ce qui a besoin d'eau derrière. Attention à ne pas en mettre partout, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'eau dans le fleuve et dans la rivière. C'est ce qui se passe en Australie, c'est ce qui se passe à peu près partout dans le monde. On a oublié qu'on avait des rivières tellement on retient l'eau en amont. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième problème, et qu'on a développé massivement en France en disant « Eureka, on a la solution magique », c'est de dire « on va créer des bassines qui vont permettre de collecter les eaux ». Et donc l'argument qu'on a donné principalement, c'est de dire « on va prendre le trop-plein d'hiver des inondations qui ne servent à rien ». Déjà, je conseille à personne de conserver des eaux d'inondation parce qu'elles sont turbides, remplies de polluants, et derrière, elles ont pris toutes les poubelles qu'elles ont trouvées sur leur chemin. Donc, il vaut mieux qu'elles s'évacuent en mer et qu'elles se nettoient naturellement. Donc, et en plus, mathématiquement, c'est faux. C'est-à-dire que c'est impossible de mettre une cuvette sous le nuage où il y a eu une inondation pour aller l'amener là où il y a, où il y a une exploitation agricole. Donc, premièrement, ça n'existe pas. Et donc, en fait, on prend cette eau souterraine, on la met en superficie, ici, et on la met directement au soleil toute la journée, donc elle s'évapore massivement. Et la seule raison pour laquelle on fait ça, à la limite, continuons à pomper massivement dans la nappe jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle soit en phase de crise. La seule raison, c'est que lorsqu'on a une bassine et qu'il y a un arrêté préfectoral de crise, eh ben on peut continuer à irriguer, alors que celui qui n'a pas de bassine n'a plus le droit d'irriguer.
Il n'y a pas d'équité dans ces cas-là.
Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de cette vague de chaleur et de sécheresse en France. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. C'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Il fait une chaleur même sur le plateau.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Mathieu, les élections législatives et un candidat forcé à se retirer.
Oui, il s'appelle Jérôme Peyrat et ce matin, il était encore candidat de la majorité investie dans la 4e circonscription de Dordogne. Seulement voilà que celui qui est aussi maire de la Roque-Gajac et conseiller régional, Jérôme Peyrat, a été condamné pour violence conjugale. On le dit proche du président, il avait dû quitter ses fonctions de conseiller à l'Élysée en septembre 2020. Jérôme Peyrat a été condamné pour avoir donné une gifle à son ex-compagne. Mais investir un candidat condamné pour violence conjugale, ça fait très mauvais genre et le patron de La République En Marche a dû s'en expliquer ce matin.
Il a été condamné à une amende avec sursis. C'est ça la condamnation qu'il a eue. Son ex-compagne a elle aussi été condamnée dans cette même affaire. Et donc vous voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. On pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon jamais, jamais j'aurais permis cette investiture. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence.
C'est un honnête homme, Jérôme Peyrat. Je ne le crois pas capable de violence. Explication des plus étranges, alors que clairement, précisément, c'est pour ça qu'il a été condamné et qu'il avait infligé 14 jours d'ITT à sa victime, entre autres, position intenable et face à la polémique. Finalement, à 17h ce soir, nous avons appris que Jérôme Peyrat retire sa candidature aux élections législatives.
Tout autre sujet, mais les motos et scooters vont finalement devoir passer par un contrôle technique.
Oui, c'est un dossier qui se trouve sur le bureau du nouveau ministre des Transports. Quand on saura qui c'est.
Ah oui, je croyais que vous alliez nous annoncer son nom.
Le contrôle technique pour les deux roues, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais c'est imposé déjà par une décision européenne que le gouvernement avait écartée face à la fronde des motards. Mais voilà que le Conseil d'État vient rappeler l'exécutif à ses obligations. La mesure devra être mise en place. Les associations écologistes qui avaient saisi le Conseil d'État se réjouissent.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le parc de deux roues motorisées en France, il est vieillissant et il est important. Donc c'est source d'accidentalité, c'est source de pollution atmosphérique et c'est source de pollution sonore. Et donc, y compris pour la pollution atmosphérique qui est notre combat, c'était important qu'il y ait ce contrôle technique pour notamment enlever de la circulation les véhicules les plus polluants et qui ne correspondent plus aux normes. Ce qu'on sait, c'est que dans les pays où on a mis en place le contrôle technique des deux roues, on a vraiment des résultats qui sont importants, notamment sur la sécurité routière, sur le nombre de morts évitées, sur également les économies qui sont réalisées pour l'assurance maladie. Et en Espagne, par exemple, c'est 100 millions d'euros par an.
Louis Amar et Emo Touré sont aussi allés interroger des conducteurs de deux roues. Leurs représentants sont vent debout.
Tout est à l'œil nu. Une voiture, vous êtes obligé de tout démonter. Donc on n'a pas besoin d'un contrôleur pour nous dire ça, ça ne va pas. Vous voyez, on le voit tout de suite. Et les motards sont formés lors du permis de conduire à l'entretien de leur véhicule et à faire le tour de leur véhicule pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Quand vous montez sur un deux roues motorisé et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dessus, vous le voyez tout de suite, vous le sentez tout de suite. Et alors, à moins d'être suicidaire, on fait les réparations. Parce qu'à deux roues motorisées, dynamiquement, ce n'est pas du tout la même chose qu'une voiture. À deux roues motorisées, si vous ne faites pas les réparations sur quelque chose qui peut vous mettre en danger, la sanction, elle est immédiate.
Entre écologie, sécurité routière et association de conducteurs de deux roues, le Conseil d'État a tranché. La mesure entrera en vigueur avant le 1er octobre 2022 pour les deux roues supérieures à 125 cm3 en cylindrée, pour être précis.
Ça énerve Patrick, mais apparemment tout l'énerve ce soir.
Non, mais si on se décide à contrôler les scooters des livreurs, ce serait bien aussi.
Mais vous êtes à moto ou à trottinette, Patrick?
Hein?
Je croyais que vous étiez à trottinette.
Moi, en transport en commun.
Régulièrement contrôler la trottinette.
Non, mais c'est vrai que les nuisances, bruit et pollution, ce n'est pas forcément les plus de 125 qui se remarquent dans les grandes villes.
C'est les plus grosses cylindrées?
Les plus petites qui se remarquent.
Les plus petites, celles des livreurs.
Une première en Europe, l'Espagne veut instaurer un congé menstruel.
C'est une première en Europe, mais pas une première mondiale. Tiens, déjà, regardez, une telle disposition existe déjà sur d'autres continents, au Japon depuis les années 40, en Indonésie, en Zambie, à Taïwan. Un arrêt maladie financé par l'État pour des règles douloureuses, invalidantes. Pour le gouvernement espagnol, l'enjeu premier, c'était aussi de sortir les règles du tabou.
Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
Ça, c'était la présentación du projet, une disposition accueillie avec enthousiasme par les personnes interrogées par nos confrères espagnols.
Parece perfectamente, como cualquier persona que tiene un problema de salud y se pide unos días de trabajo.
Es cierto que también hay que hacer una educación a las empresas y a la sociedad para que sensibilicen con este.
Pues me parece perfecto. Tendría que hablar en no tres días, una semana entera.
Sé lo que es y la verdad es que a veces duele que los hombres o gente machista se lo tome tan a risa y tan. Cuando es una cosa, un problema importante.
Et en France, est-ce qu'on peut imaginer la mise en place d'un congé pour règles douloureuses invalidantes? Louis Amar et Motouré ont interrogé des associatifs et ça peut paraître surprenant, mais si l'idée est plutôt bien accueillie, la réponse, elle, est nuancée.
Pendant longtemps, les douleurs menstruelles étaient très stigmatisées, on n'en parlait pas du tout, voire on pensait que c'est normal que les femmes puissent travailler en souffrance. Du coup, le fait de dire non, c'est pas normal que la femme puisse travailler en souffrance, c'est une bonne nouvelle. Ça peut aussi être un autre frein à l'embauche, car il y aura toujours des employeurs qui vont dire « elle pourrait tomber enceinte, elle pourrait s'absenter deux, voire trois fois cinq jours par mois à cause de ces règles ». Et du coup, ça peut stigmatiser les femmes. Avant de mettre en place des congés, je pense, dans un premier temps, c'est mieux d'investir dans la recherche pour mieux traiter les douleurs et dire aux femmes que votre douleur n'est pas normale.
Et par ailleurs, puisqu'on parle de l'Espagne, dans le même texte qui prévoit l'instauration d'un congé menstruel, une autre avancée, l'Espagne veut renforcer le droit à l'avortement, l'accès à l'IVG en général et particulièrement aux mineurs de 16 à 18 ans qui pourront désormais se passer d'autorisation parentale. Texte espagnol en vrai, véritable contraste avec les informations qui nous viennent des États-Unis.
Aux États-Unis justement, où le renseignement militaire américain reconnaît un nombre croissant d'OVNI.
Oui, vous ne rêvez pas. Un nombre croissant d'objets volants non identifiés dans le ciel ces 20 dernières années. Cette audition de responsable du Pentagone devant la représentation fédérale, c'est une première en 50 ans. Et ne souriez pas, point de petits hommes verts, mais on parle bien d'OVNI au Capitole.
For more than 20 years, that project had treated unidentified anomalies in our airspace as a national security threat to be monitored and investigated.
The UAP Task Force database has now grown to contain approximately 400 reports.
That office's function is clear: to facilitate the identification of previously unknown or unidentified airborne objects in a methodical, logical, and standardized manner.
Alors, il y a un contraste entre le sérieux des politiques américains et ce sujet. Ce n'est pas Hollywood ni Netflix. C'est moins spectaculaire que bien des films de genre, mais on parle de plus de 400 rencontres inexpliqués contre les 150 reconnus il y a quelques mois encore. Mais ce sont des démonstrations, ça nous a beaucoup amusé, parfois un peu floues. Regardez.
Is that it right there? Can you point to the screen again what we're supposed to be looking at?
The laptop we're working with is not as easy for us stopping that video in the right spot.
We'll describe what we have seen in that. What are we observing?
What you see here is aircraft that is operating in a, you see a, it looks reflective in this video.
And is this one of the phenomena that we can't explain?
I do not have an explanation for...
That's the object that we're looking at right there? Thank you.
Voilà, donc ça peut être un reflet sur la vitre. Oui.
Regardez, Patrick, oui. Les images de ces ovnis, vous les voyez.
Ah oui,
les images diffusées par la défense
américaine. Ah bon, tu vois plus quelque chose, toi. Là, il y a un petit...
Il y a un objet qui tourne, des objets volants. Alors, non identifié, c'est le nom des ovnis. Non autorisé, précise bien ces messieurs, justement. Des objets qui volent bizarrement. Encore une fois, personne ne parle de vie extraterrestre sérieusement. Reste que les enregistrements qui vont avec les images vont vous impressionner.
There's a whole fleet of them, look on the SA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a... Look at that thing.
La réalité, au-delà du fantasme, chacun interprète un peu ses formes dans le ciel. Au-delà du fantasme des petits hommes verts qui viendraient nous dire bonjour, c'est que ce qui inquiète le plus le Pentagone, c'est que ces objets volants non identifiés sont non autorisés. Ce pourrait être des objets d'espionnage provenant de la Terre, de la Chine peut-être, ou de la Russie. C'est ce qui inquiète le renseignement militaire américain.
Alors, ce n'est pas un objet non identifié, non, c'est une star bien identifiée. Tom Cruise est sur la croisette.
Alors, bien sûr, on va retrouver Pierre Lescure et Mohamed Bouafsi à Cannes au festival après 20h. Mais sans plus attendre, la projection hors compétition aujourd'hui de Top Gun Maverick, 36 ans après le premier film culte. Et Tom Cruise sur la croisette pour la première fois en 30 ans, Quentin Schatz et Cyril Jean-Jean ont croisé quelques fans de l'immense star américaine devant les mains.
C'est mon idole, voilà, c'est tout. Depuis la première fois que je l'ai vu jouer, que ça remonte.
Un fou furieux, vraiment un fou furieux. Jusqu'à apprendre des métiers vraiment fous, bah, littéralement piloter un avion là.
C'est un peu toute mon enfance, c'est mon premier crush de jeune fille.
C'est quand même un monument du cinéma, donc c'est exceptionnel si on arrive à pouvoir le rencontrer.
C'est un acteur qui devient mieux avec l'âge, un petit peu comme les vins.
J'ai l'impression de voir quelqu'un dont j'ai... sur lequel j'ai beaucoup fantasmé. Une bronze depuis bientôt 2 heures, là. Alors, Tom, si tu m'entends, vraiment, tu vois, je te prouve mon amour pour toi. Hein. My love for you.
Alors, Tom Cruise, c'est toujours du grand spectacle, au cinéma comme dans la vraie vie. Il a soigné son arrivée sur le tapis rouge. Arrivé sur la croisette en hélicoptère pour la projection du film, rien que ça. Il s'est ensuite, Tom Cruise, livré à une masterclass.
Voilà, Tom Cruise. Évidemment, lunettes aviateur vissées.
Great to see you. Hello. Sure, when I come back. Okay.
When I'm making a movie, I'm thinking, I'm trying to use all of the skill and everything that I know, and all of the skill of all the people that I work with, the beauty of cinema. I mean, it's an incredible experience because you just learn so much about humanity.
Par ailleurs, une autre info rigolote autour de ce nouveau Top Gun. On quitte l'hélicoptère pour l'avion. À l'écran, vous allez voir un engin hypersonique. Bon, il sort du film. C'est un faux. Ce n'est pas un vrai avion militaire. Il a juste été conçu pour Top Gun. C'est une maquette de faux avion hypersonique militaire. Et cette indiscrétion de tournage, le producteur du film relaye des informations de l'armée américaine. Encore eux, un satellite chinois a changé de direction afin de photographier l'avion. Il pensait qu'il était réel.
Bah oui. Si on commence à perturber tout le monde avec Tom Cruise... Et Tom Cruise qui est donc ce soir à Cannes. Et qui
retournera ensuite en Angleterre où il était encore le week-end dernier. Il participera au jubilé de la Reine d'Angleterre puisqu'on en parle tous les soirs cette semaine, on a décidé.
Ben voilà, pourquoi la température augmente. Tom Cruise est en France.
Oui, s'il fait des allers-retours en hélico, c'est sûr.
Ceci explique cela, Laurent Romeschko.
Ouais, quand il tournait Mission Impossible à Paris, il faisait allers-retours entre Londres et ici, je crois bien.
Ah ouais, il a pollué un peu plus de Paris, mais on est quand même fan.
Un beau bilan carbone.
Cannes, on en parle dans un instant avec nos envoyés spéciaux, Pierre et Mohamed. On sera également avec Gad Elmaleh qui nous parlera de son spectacle, celui de la maturité qui s'appelle D'ailleurs, qui est en tournée en toute la France. Et puis Isabelle Carré nous présente son 3e roman. Et comme d'habitude, on l'a adoré, c'est à vous. A tout de suite pour le dîner.